Alors, le mois dernier, on a commencé une conférence, mais elle était trop longue pour être terminée en une seule fois. Et donc, le sujet, c'est l'histoire des baptistes en France. Donc, on a commencé pour faire une rapide révision. On a commencé avec le texte de Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc, Jésus a dit qu'il bâtirait une église. Et il a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ce qui veut dire en langage clair, c'est que les portes du séjour des morts ne résisteront pas aux assauts de l'Église du Seigneur. C'est-à-dire, le diable tient les gens dans la servitude et dans l'esclavage du péché, mais le Seigneur, par son Église, par l'Évangile, va arracher ses âmes et les mettre dans la famille de Dieu. Donc ça, c'est la promesse que Jésus a faite. Et donc, si Jésus a dit, je bâtirai mon Église, ça veut dire que sur la terre, il y a toujours eu des croyants qui ont vraiment cru en Jésus-Christ, qui ont reçu le Seigneur et qui ont abandonné l'Évangile à d'autres. Mais pendant des siècles et des siècles, ces chrétiens-là étaient terriblement persécutés. Et une des meilleures manières de persécuter des gens, c'est de détruire leurs écrits. Si vous détruisez leurs écrits, vous détruisez leur mémoire. Ce qui fait que des milliers de gens héroïques ont donné leur vie pour le Seigneur, mais l'Église officielle a détruit les archives pour beaucoup, donc on n'a que très peu de renseignements. Et donc c'est un peu par la foi que nous savons que Dieu a toujours eu son Église sur la terre, mais on a assez de témoignages pour montrer qu'il y a eu des héros tout au long. Alors les 3 premiers siècles, c'était presque ininterrompu. Il y avait 10 périodes de persécution majeure par les empereurs romains entre le début, donc avec Néron, et puis le dernier qui était Constantin. Mais Constantin, il a fait, bon pour lui, il a trouvé ça très bonne idée, mais en rétrospective, nous trouvons ça, c'est triste. Quand il a déclaré que le christianisme serait l'une des principales religions de l'Empire romain, ça veut dire maintenant être chrétien, c'est bien. Alors qu'avant être chrétien, on était persécuté. Alors comme c'était bien politiquement d'être chrétien, l'étiquette, des gens qui ne connaissaient pas du tout Jésus-Christ, qui ne connaissaient pas l'Évangile, se sont engouffrés dans les églises chrétiennes et ont dit, nous voulons devenir chrétiens. Alors, on les baptisait à tour de bras, il n'y avait plus de persécution, mais baptiser chrétien n'était pas vraiment des enfants de Dieu. Et très rapidement, la grande majorité des gens dans l'église dite chrétienne n'étaient pas des enfants de Dieu. Non seulement ils n'étaient pas sauvés par Jésus-Christ, ils n'étaient jamais passés par la nouvelle naissance, mais ils n'avaient jamais abandonné leurs idoles païennes et leurs coutumes païennes. Que s'est-il passé? Eh bien, comme la politique a travaillé sur le religieux, les évêques ont commencé à donner des noms chrétiens à des idoles païennes. Et c'est comme ça que certaines fêtes dites chrétiennes n'ont pas d'une origine chrétienne de la Bible, mais sont d'anciennes fêtes païennes rebaptisées avec des noms chrétiens. Par exemple, les feux de la Saint-Jean, en fin juin, qu'on fête beaucoup, enfin, en fait, c'est encore la culture française, eh bien, c'était le dieu poisson, et c'était aussi passer les enfants par le feu, comme faisaient les Cananéens du temps où Josué est allé conquérir le pays pour le donner au peuple d'Israël. Ils faisaient passer leurs enfants par le feu, ils les faisaient brûler en l'honneur du dieu Moloch. Et donc, il y avait beaucoup de ces sacrifices humains, des sacrifices d'enfants à des idoles. Donc c'était des cultes absolument horribles et sanguinaires qui ont toujours perduré. Donc une très grande partie de ce qu'on appelle l'histoire des saints, si vous lisez, vous allez à la bibliothèque, vous cherchez une histoire des saints, ils vous raconteront tous les saints catholiques. Alors il y en a qu'il faut invoquer pour certaines maladies. On a Saint Joseph, voilà, pour les voyages, on a, etc. Bon. Mais de manière générale, ça relève plutôt du paganisme. Il n'y a pas une trace dans la Bible de ce genre de choses. Et donc, c'était ça, et c'est ainsi que l'Église chrétienne a été paganisée. Les cardinaux, le mot cardinal vient d'une ancienne religion babylonienne, qui veut dire les prêtres de la charnière. Parce qu'on disait, les cardinaux, ils ouvrent la porte du ciel, ils ferment la porte du ciel. Le pape, Pontifex Maximus, c'est le bâtisseur de ponts. C'est lui qui fait un pont entre Dieu et les hommes. Le pape, donc, et il est appelé le vicaire du Christ sur la terre. Ça veut dire qu'il est censé remplacer Jésus-Christ sur la terre. Comme Jésus-Christ est saint, on appelle le pape sa sainteté. Et donc, toutes ces choses-là viennent de la religion babylonienne. Parce que souverain pontife, c'était le titre du chef de la religion babylonienne qu'il a donné à l'empereur romain. Et l'empereur romain l'a redonné à l'évêque de Rome. Et le souverain pontife a fait que l'évêque de Rome est devenu l'évêque le plus important parmi les cinq grands évêques de cette époque-là. Et il est devenu, comme ils disent aujourd'hui, le premier entre égaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, le pape, c'est le pasteur de l'Église universelle. Et au fil du temps, on a commencé à dire quand le pape parle au nom de Dieu et au nom de l'Église, il est infaillible. Il ne peut pas dire une erreur. Et ces choses-là sont dans la doctrine de l'Église catholique romaine aujourd'hui. C'est dans leur catéchisme et ça n'a jamais été enlevé. Donc, une grande partie de ces choses vient directement du paganisme. Où est l'Église alors? Alors, il y a eu en Bulgarie, dans la Bohémie, les Bohèmes, et dans différents coins des pays de l'Est, de l'Europe, il y a eu des mouvements évangéliques, des mouvements basés sur la Bible. Il y avait des Bogomils, il y avait des Pauliciens, ce sont des gens qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais ils ont pris la Bible, ils ont dit « on va faire ce que dit la Bible, on ne veut pas de religion, sauf ce qu'on lit dans les Écritures ». Et ils ont quitté les sacrements, ils n'avaient plus de prêtres, et puis surtout, ils demandaient aux gens de se convertir à Jésus-Christ et les baptiser par immersion, comme les premiers chrétiens, comme dans le Nouveau Testament. Alors en France, on a vu la dernière fois qu'il y a eu au 10e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e siècle, 5 ou 6 hommes qui sont bien connus, qui étaient surtout des prêtres, des prédicateurs catholiques, qui lisaient la Bible. Et ils ont dit, les indulgences, c'est pas biblique. Le pape, c'est pas biblique. Les prêtrises, ce n'est pas dans la Bible. Le baptême des bébés, ce n'est pas dans la Bible. Et ils ont prêché la Bible. Mais ils ont tous été persécutés et mis à mort et pourchassés. Il y en a même un, on l'a tué, on l'a brûlé et on a jeté ses cendres à Rome, dans le fleuve de Rome, pour montrer, vraiment, on ne veut même pas avoir ses cendres avec nous, on les jette dans le fleuve, quel horrible homme, pourtant il prêchait la parole de Dieu. Alors maintenant, on arrive au 15e siècle, donc 1517, vous avez ce fameux moine, ce professeur de théologie catholique, un moine augustinien, qui, en lisant la Bible, tombe sur Romains 1, 16 et 17. Et cet homme, depuis des années et des années, cherchait à répondre à la question, comment être juste devant Dieu? Comment être juste devant Dieu? Et lisant l'apôtre Paul, il découvre le juste vivra par la foi. Et comment? Un rayon de lumière pénètre son esprit et il dit, mais on est sauvé, déclaré juste par la foi en Jésus-Christ. Pas par la religion, pas par les sacrements, pas par les prêtres, par la foi en Jésus-Christ. Et donc, il a redécouvert pour lui-même que Dieu le déclare juste par la foi. C'était Martin Luther. C'était le début de la réforme. Ce qu'il faut savoir pour la réforme, quand vous dites réforme, qu'est-ce que ça signifie le mot réforme? Ça signifie donner une autre forme. Et c'était bien le problème. L'Église catholique romaine du temps de Martin Luther, ils étaient en train de construire la cathédrale Saint-Pierre à Rome. Vous avez entendu parler de cette énorme cathédrale qui a coûté très très cher. Et pour la financer, les prêtres passaient dans les villages, partout, en France, en Allemagne, partout, et disaient aux fidèles, vous avez des péchés, vous avez des choses à vous reprocher, est-ce que vous aimeriez être pardonné pour vos péchés? Oh, on aimerait bien. Est-ce que vous aimeriez savoir que vos péchés sont effacés? Oh oui, on aimerait bien. Eh bien, ça se paye. Si vous achetez des indulgences, ça vous donnera moins d'années au purgatoire. Et comme certains, ils savaient que si le purgatoire existait, ils en avaient pour plusieurs centaines d'années, on disait, mais vous pouvez racheter 50 ans de purgatoire pour tant d'argent. Moi, je vais acheter 100 ans de purgatoire. Donc, les gens essayaient de raccourcir le temps au purgatoire en payant pour leurs péchés. Et cet argent a servi à construire la basilique Saint-Pierre à Rome. La vente des indulgences. Donc, quand Martin Luther, qui était quand même un prêtre et un professeur de théologie catholique, donc il connaissait vraiment bien son Église, il a mis sur la porte de son village, sur l'église de son village, 80 choses qui n'allaient pas dans l'église catholique, qu'il fallait changer. Il dit, il faut changer ces horribles choses que nous faisons et il faut donner une autre forme à cette église. Il faut la réformer. Seulement, ça a créé beaucoup de problèmes et le pape l'a convoqué et lui a dit, monsieur Martin Luther, vous devez renoncer à vos mauvaises idées. Et je vous pardonnerai et vous garderez votre place. Mais vous êtes allé trop loin. Ce n'est pas bien ce que vous avez fait. Alors, vous avouez-moi que vous avez fait une erreur. Alors le pauvre Martin Luther a dit, écoutez, je ne peux pas aller contre Dieu ni contre ma conscience. Je ne peux pas revenir en arrière. Que Dieu m'aide. Donc il a tenu ferme, c'était bien. Et donc, on lui avait dit, si tu viens voir le pape, on te conduira chez toi en toute sécurité. En réalité, il y avait des soldats à l'assaut de l'Église catholique qui devaient l'assassiner en chemin pour retourner chez lui. Seulement, ses amis l'ont kidnappé et l'ont mis dans une grande forteresse cachée, personne ne savait où il était. Et il y a passé plusieurs années. Et c'est là qu'il a écrit ce magnifique cantique, « C'est un rempart que notre Dieu ». Bon, il a traduit la Bible, donc, en allemand, pour que tout le monde puisse se comprendre. Mais Martin Luther, il a compris l'évangile, il a compris le salut par la foi, mais il n'est pas revenu totalement au Nouveau Testament. C'est-à-dire, il a continué à baptiser les enfants pour qu'ils entrent dans l'Église réformée. On l'appelait l'Église luthérienne, puisque c'est Luther qui l'a démarré. Une autre chose, c'est qu'il pensait que le peuple d'Israël, le peuple juif, comme ils avaient crucifié Jésus, Dieu en a fini avec les juifs, il n'aura plus rien à faire avec eux, et c'est des gens maudits. Et alors, il disait même, vous pouvez tuer les juifs, il a dit des choses horribles, parce qu'il ne comprenait pas, et puis il n'a pas vraiment cherché toute la parole de Dieu. Et donc, il était anti-juif. Et savez-vous quoi? Ce qui est terrible, c'est quand Hitler a pris le pouvoir en Allemagne, il s'est appuyé sur certains écrits de Martin Luther pour persécuter les juifs. Parce que la religion luthérienne est devenue la religion officielle de l'Allemagne. L'une des deux religions officielles. Et donc, il disait aux bons protestants, aux bons luthériens, hein, Martin Luther, il a dit ça, donc il faut en finir avec les juifs. C'est un peuple maudit. Voyez un peu le problème qu'il a pu y avoir. Et donc, de l'autre côté, là, du côté français, à Strasbourg et puis à Genève, c'était Jean Calvin. Et Jean Calvin il a vu un peu plus clair que Luther sur certaines choses, mais les deux pensaient que quand vous avez le pain, vous savez, pour le repas du Seigneur, le prêtre catholique dit, ça devient le corps du Christ. C'est la transsubstantiation. La substance, elle change. Mais eux, ils disaient, non, la présence du Seigneur est à côté de l'hostie. La présence du Christ est à côté de la coupe, la consubstantiation. C'est-à-dire, c'est à côté, mais c'est pas dedans, ça ne devient pas. Bon, c'est un peu, vous voyez, c'est pas très net, parce que dans la Bible, c'est symbole, un symbole de son corps. Bon, il y avait plusieurs choses. On baptisait les enfants toujours, et on disait, si vous êtes né dans une famille calviniste, ou si vous êtes né dans une famille luthérienne, vos parents sont baptisés luthériens ou bien réformés, vos enfants sont chrétiens, dès qu'on les baptise, ils font partie de l'Église. Est-ce que bibliquement, c'est vrai? Non. On voit que très, très clairement dans la Bible, Jésus dit, il faut croire. Il faut placer sa confiance en Jésus-Christ. Il faut recevoir le salut. Et on devient un enfant de Dieu. Et là, on est né de nouveau. Et là, après d'être né de nouveau, on peut être baptisé. Et le mot baptême veut dire immersion. Donc, on va tout entier dans l'eau pour montrer que, comme Christ est mort et ressuscité, je vais sous l'eau et je ressors, symbole de mon identification avec le Seigneur. Alors, bon, c'était quand même réjouissant parce que ces deux réformateurs ont travaillé pour que la Bible soit traduite en français, en allemand. Et en 75 ans, après Martin Luther, dans les 75 ans qui ont suivi, la Bible a été traduite dans toutes les langues européennes. Tout le monde avait la Bible. Tout le monde qui, je veux dire, on avait la Bible dans toutes les langues. Et ce qui est merveilleux, c'est juste à ce moment-là, Dieu a permis à Gutenberg d'inventer l'imprimerie. Et on a pu imprimer des centaines de livres très rapidement. On n'était plus obligé de copier, payer des copies très chères à la main. Vous comprenez, payer quelqu'un à l'heure pour copier un gros livre. Le livre vous coûtait des milliers d'euros. Tandis qu'avec l'imprimerie, le même livre vous coûtait quelques dizaines ou quelques centaines d'euros, mais c'était une fraction du prix. Donc, la Bible s'est répandue et c'était réjouissant. Mais il y avait un troisième réformateur à Zurich, en Suisse, qui s'appelait Zwingli. Alors, Ulrich Zwingli, Jean Calvin et Martin Luther étaient un peu sur les mêmes idées. Hein? Seulement, comme les catholiques avaient dit, par exemple, la France est un pays catholique, l'Espagne est un pays catholique, l'Allemagne, une partie de l'Allemagne devenait un pays luthérien. Et donc, si vous étiez catholique dans le pays de Luther, on vous persécutait, comme les catholiques persécutaient les autres. Si vous étiez en athée à Genève, le gouvernement de Jean Calvin vous persécutait, vous mettait en prison. Si vous n'alliez pas au culte dimanche matin à l'église de Genève, on venait vous chercher pour vous amener en prison. Donc, il n'y avait pas de liberté de conscience. Et donc, Will Zwingli, il baptisait aussi les bébés et tout ça, mais il avait autour de lui un groupe de jeunes hommes. Et ces jeunes hommes devaient avoir dans les 30 ans, 35 ans, comme ça. Mais c'était des jeunes hommes très instruits. Ils avaient appris, bien sûr, le suisse, l'allemand, mais ils avaient appris l'hébreu et le grec, le latin, ils connaissaient toutes les langues, les grandes langues littéraires. Et comme ils avaient maintenant les manuscrits de la Bible en grec et en hébreu, ils lisaient la Bible en grec et en hébreu. C'est quand même, c'est des têtes, hein? Et ils faisaient leurs études bibliques en grec et en hébreu, avec M. Zwingli. Et en lisant le Nouveau Testament, ils lisaient le baptême, le baptême, le baptême, le baptême. Et dans le grec, c'est immersion. Ils ont dit à M. Zwingli, mais monsieur, là dans la Bible, le baptême se fait après la conversion et ça se fait par immersion. Alors que nous, on asperge les enfants, mais quand ils sont petits. Est-ce qu'on ne devrait pas baptiser des adultes par immersion, comme Jésus le dit dans la Bible? Alors Zwingli dit, écoutez, c'est vrai que je vais aller voir le conseil municipal de Zurich. Je vais demander au conseil municipal si on peut changer. Donc, il va aller voir. Le conseil municipal dit, non, écoutez, on est réformé, ça va bien comme ça. Toutes les lois sont toutes faites comme il faut. Vous n'allez pas créer des problèmes. Non, 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 pas de baptême par immersion, pas de baptême d'adulte. On fait comme d'habitude. Zwingli revient voir ces jeunes hommes. Il dit, voilà, J'étais demandé, non, ils disent, non, on ne fait pas ça. On continue comme avant. Donc, on continue comme avant. Mais les jeunes, ils ont dit, mais monsieur, mais la Bible dit ça. Et nous, on fait le contraire. Alors, Zwingli a dit, non, mais il faut obéir aux autorités que Dieu a établies. Mais les jeunes hommes ont dit, oui, mais les apôtres ont dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, un soir, ces hommes sont sortis et près d'une rivière. Un, il a baptisé l'un des frères, et celui-là, il a baptisé les autres. Alors, il y avait toujours des gens qui pratiquaient le vrai baptême, mais ils étaient cachés. Par exemple, dans les Alpes italiennes, dans le Piémont italien, il y avait des groupes de gens qu'on appelait des Vaudois. Ils étaient cachés, les catholiques les pourchassaient. C'était difficile de monter dans les montagnes, ils ne connaissaient pas trop bien les sentiers, et ces gens étaient très débrouillards, ils vivaient toujours là-haut, ils avaient leur village, leur caverne, leur cachette, et donc on ne pouvait pas les extirper, et finalement les gens les ont abandonnés, bon, qui restent là-haut. Et ils étaient là-haut pendant 10 siècles. Ils avaient de vraies églises, avec de vrais baptêmes, et puis prêchaient vraiment l'évangile. Et il y avait jusqu'à 250 000 chrétiens dans ce Piémont italien. Mais ces jeunes hommes, eux, en fait, ils sont sortis de la réforme. Donc, ils sont quand même revenus jusqu'à la Bible. Et donc, comme ils se sont fait baptiser, après avoir été baptisés bébés, on les appelait des anabaptistes, des rebaptiseurs. Mais si vous avez posé la question à ces jeunes hommes, est-ce que vous vous êtes fait rebaptiser? Ils auraient dit non. Parce que le premier baptême, ce n'était pas un baptême. Le premier baptême, j'étais gamin, je ne savais pas ce qui se passait. Le premier baptême, on ne m'a pas immergé dans l'eau, on m'a arrosé avec un peu d'eau. Ce n'est pas un vrai baptême. Là, j'ai eu un vrai baptême. Donc, je suis plutôt un baptiste. Mais les autres disaient non, tu as un baptême bébé, comme ça, maintenant tu te refais, tu es anabaptiste. Et donc le nom est resté comme ça, les anabaptistes. Alors ce qui est impressionnant, c'est que ces jeunes hommes qui étaient très courageux, qui étaient très intelligents et remplis de zèle pour le Seigneur, ils ont commencé à prêcher le Nouveau Testament, la vraie Église. On n'est pas là pour réformer l'Église catholique. On est là pour revenir totalement à la Bible et faire une vraie église comme Jésus-Christ au premier siècle. Alors, on les a persécutés. D'abord, il faut dire que beaucoup de gens qui les écoutaient prêcher étaient convaincus que c'était vrai. Ils prenaient le Nouveau Testament et lisaient. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce qu'il faut faire. Et les gens disaient, ben oui. Et on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ben oui. Qui veut être baptisé? Moi. Alors, ils ont baptisé des centaines de personnes. Mais dans les 10 ans qui ont suivi le début de leur mouvement, tous ces hommes sont morts martyrisés. Et puis alors, à Genève et dans le lac Léman, donc en Suisse, pour les réformateurs, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, tous ces gens-là ont dit, ouh là, ces anabaptistes, il y en a partout, ça ne va pas. On va les baptiser, nous on va les baptiser. Ils aiment l'eau, on va les baptiser. Alors, on a attrapé ces gens-là, on leur a attaché une grosse pierre à leur corps, et on les jette dans le lac. On les noyait dans le lac Léman. Par milliers, les réformés ont noyé des anabaptistes. Pourquoi? Parce que, comme dans le catholicisme, la réforme disait, on est une religion d'État. Et si vous n'êtes pas d'accord avec notre religion, on envoie la police pour vous punir. Parce que c'est illégal de ne pas croire ce que nous enseignons. Et du coup, ces anabaptistes ont enseigné autre chose. Ils ont dit non. Vous pouvez croire ce que vous voulez. L'Église n'a pas à persécuter les gens. On va juste étudier la Bible et croire ce que Dieu dit. Si on nous persécute, on nous persécute. Donc, on les persécutait, on les tuait, on les torturait, et jamais Quand eux, ils avaient l'occasion de torturer quelqu'un, jamais ils ne l'ont fait. Jamais ils n'ont persécuté personne, parce qu'ils ont lu dans le Nouveau Testament que les chrétiens, les vrais chrétiens, ne persécutent personne. Ils sont persécutés, eux, mais eux-mêmes ne font de mal à personne. Parce que Jésus, il a été crucifié, il n'a jamais menacé quiconque. Et il a dit, nous devons suivre ses traces. Et donc, les anabaptistes se sont beaucoup, beaucoup multipliés. Alors, ces assemblées se sont multipliées donc en Alsace, en Allemagne, beaucoup en Suisse, en Italie, il y avait déjà ces fameux vaudois. Ils sont beaucoup multipliés aux Pays-Bas, en Angleterre et un peu en France. Mais en France, on les persécutait beaucoup. Et donc, avec la persécution, ces églises étaient en difficulté. Il n'y avait pas de pasteur pour les enseigner, il n'y avait personne pour les encourager, elles devaient constamment se cacher, et à un moment donné, elles étaient vraiment laminées, elles étaient découragées, elles commençaient à disparaître. Et le Seigneur, dans sa grâce, a saisi un ancien prêtre catholique hollandais qui s'appelait Menno Simons. Et Menno Simons a commencé à lire la Bible, catholique qu'il était, il s'est converti, il a lu le Nouveau Testament. Il a dit, mais c'est ça la vraie Église. Et il est devenu anabaptiste aussi. Et donc lui, il a vu les besoins de ces églises, il allait les visiter, les encourager, les enseigner, les réunir, porter des nouvelles des unes des autres pour que ces églises se sentent moins seules. Et il a tellement travaillé parmi toutes ces églises que des gens qui regardaient cet homme qui allait toutes ces églises, « Ah, mais c'est vous qui vous suivez Menno Simons, là. Hein, c'est Menno Simons, votre pape. » »« Mais ce n'est pas notre pape. C'est un simple frère qui vient nous encourager. »« Ah oui, vous suivez Menno Simons, vous êtes des Mennonites. » Et c'est comme ça que les églises Mennonites ont eu leur nom par ce monsieur-là. Alors, les Mennonites avaient, en plus d'être baptisés par immersion et tout ça, ils avaient un petit truc, c'est qu'ils avaient eu beaucoup de persécutions et tout ça. Ils ont décidé, jamais ils ne porteraient des armes. Et jusqu'à aujourd'hui, si vous êtes dans une église mennonite, normalement, ils refusent le service militaire. Ils ne refusent pas le service militaire, mais ils refusent de porter les armes. Ils vont aller comme ambulanciers pour secourir les blessés, mais ils ne veulent pas prendre une arme parce qu'ils disent, non, c'est pas, nous ne voulons pas. C'est une conviction qu'ils ont. Et c'est, bon, c'est très bien. Donc, vous avez des gens comme ça, donc ces Mennonites, ces anabaptistes, ils ont quand même bien fait parce qu'ils ont fini par être à peu près 250 000 quand même dans le monde. Donc, c'est des gens qui ont été vraiment fidèles au Seigneur. Alors, à peu près à ce moment-là, 1608-9, là nous sommes un peu moins de 100 ans après Martin Luther, hein. La réforme, ça marche depuis 100 ans. Et en Angleterre, on commence à persécuter les anabaptistes. Aux Pays-Bas, on les accueille, on ne les persécute pas. Une des raisons, c'est parce que le roi de la Hollande s'intéressait beaucoup à la question religieuse. Et il a demandé à deux de ses historiens de faire une recherche pour voir quelle était l'Église chrétienne qui se rapproche le plus de l'église du premier siècle. Alors les deux historiens ont commencé à faire des recherches, l'église catholique romaine, l'église réformée, de l'Allemagne, de la France. Ils sont revenus voir le roi, ils ont dit, ben, le groupe qui se rapproche le plus, c'est des baptistes. Ah, alors laissez-les venir. Et donc, ils ont accueilli des baptistes. Il y avait deux pasteurs, John Smith et Thomas Aloys, qui ont pris un groupe de leurs croyants et sont venus en Hollande pour avoir un peu plus, moins de pression. Et là, ils ont écrit un petit livre qui parle de la séparation entre l'Église et l'État. Autrement, ils ont dit, voilà, si vous avez une religion d'État, si vous avez une religion obligatoire, vous obligez les gens à croire ce que vous voulez qu'ils croient. S'ils sont obligés, par exemple, d'être catholiques ou d'être protestants, alors que dans leur cœur, ils n'y croient pas, vous en ferez des hypocrites. Mais ce que nous croyons dans notre cœur, c'est personnel. Vous ne pouvez pas avoir une loi qui dise aux gens ce qu'ils doivent croire. Mais c'est horrible. Et ils ont dit, pour avoir la liberté de conscience, il faut avoir le gouvernement qui dit aux citoyens, vous croyez ce que vous voulez, vous avez la liberté de conscience, mais attention, vous ne volez pas, vous ne tuez pas, vous obéissez aux lois du pays, hein, vous n'êtes pas des criminels, mais vous pouvez croire en Dieu, ne pas croire en Dieu, voilà. Il faut la liberté de conscience, et il ne faut pas que l'État se mêle des affaires religieuses, et il ne faut pas que les églises se mêlent des affaires politiques. Il faut la séparation entre les deux. Bon, c'est la première fois qu'on a écrit un livre sur le sujet. Et là, ça a été parti avec l'imprimerie, on a commencé à étudier ça, les gens ont trouvé ça merveilleux, et ça a fait connaître les baptistes très rapidement, parce que quand les gens ont lu ça, ils ont dit, mais évidemment, ça tombe sous le sens, la séparation de l'Église et de l'État et la liberté de conscience. Et donc, ce sont les baptistes qui ont amené ces deux idées-là dans le monde des idées. Et donc, ils ont dit, bon, mais il y a trop de persécution dans ce vieux continent européen. Allons au Nouveau Monde, parce que bon, le Nouveau Monde venait d'être découvert, les colonies. Donc, les premiers qui sont partis, c'est les puritains. Les puritains, c'était des gens de l'Église d'Angleterre, très comme ça, très très austères. Ils sont allés parce qu'ils étaient persécutés en Angleterre. Mais une fois qu'ils sont arrivés à Massachusetts, la Mayflower, ils ont formé leur colonie, mais eux, ils étaient aussi durs que les gens qui les persécutaient. Ils disent, nous, on est des puritains. Si vous n'êtes pas puritain comme nous, on vous met en prison. En tant qu'ils étaient tous des puritains, ça allait bien. Après, un pasteur baptiste est venu dans leur colonie, Roger Williams. Et Roger Williams a dit, je ne suis pas puritain. Et il avait quelques amis qu'il connaissait, des baptistes, qui habitaient à venir dans leur salon pour faire des petites réunions autour de la Bible. Mais c'est que la police est arrivée de Massachusetts. Qu'est-ce que vous faites? Mais on étudie la Bible, on prie, mais vous n'avez pas le droit. Ici, on est des puritains, vous êtes quoi? Et je suis un pasteur baptiste, alors vous n'avez pas le droit de lire la Bible ici. Vous êtes dans notre pays, vous devez être comme nous. Ils l'ont persécuté. Ils l'ont tellement persécuté que ce pauvre pasteur, il est parti dans la forêt primitive, hein, du Nouveau Monde. Il est allé vivre chez les Indiens. Il a appris plusieurs langues indiennes. Et il a dit aux puritains et au roi d'Angleterre, vous savez, si on vient dans ce pays, les Indiens, ils étaient là avant nous. Si on prend du pays, on ferait mieux d'acheter le terrain. C'est quand même à eux. Nous devrons acheter le terrain. Mais non, n'importe quoi. Nous, on est des Anglais, on prend ce qui nous intéresse. C'est sauvage, ils ne connaissent même pas Dieu. Ils n'ont même pas d'âme. Sans doute, ils ne vont... c'est comme des animaux. Ça ne leur appartient pas. C'est à nous. Mais Roger Williams, un peu par la force des choses, il a fait beaucoup de travail pour les Indiens. Et par la suite, il a été nommé comme un diplomate pour défendre les Indiens devant le Parlement anglais. Donc, il a fait un travail politique, mais c'était basé sur sa foi, la liberté de conscience, toujours pareil, et l'honnêteté vis-à-vis des gens. Donc, les Indiens l'ont beaucoup apprécié et lui faisaient confiance. Mais avec un autre ami, un autre homme qui était un homme d'affaires, Roger Williams a dit, « Mais tu sais, partout où on va, on est persécuté. On devrait aller voir le roi George d'Angleterre. » Et on va demander une charte pour une nouvelle colonie. Parce qu'on pouvait demander un terrain et faire une colonie, vous voyez. Et si vous avez une colonie, vous dites, voilà les lois de notre colonie. Si vous êtes d'accord avec ces lois, vous pouvez venir. Pour Massachusetts, ils vont être puritains. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Les puritains allaient à Massachusetts. D'autres gens allaient en Virginie. D'autres gens allaient, les Quakers allaient en Pennsylvanie. Mais ils ont dit, nous, on est baptistes, on va faire une colonie. Par contre, ici, il n'y aura pas de persécution. Peu importe ce que vous croyez, vous pouvez venir vivre chez nous. Il y avait déjà des athées, il y avait des agnostiques, il y avait des puritains, il y avait un peu de tout. Des gens qui n'allaient nulle part parce que chaque colonie était fermés. Et donc, chaque fois qu'ils allaient quelque part, ils étaient persécutés. Et donc, ils ont démarré une petite colonie et ils ont nommé leur petite capitale Providence, la Providence de Dieu. Et ils ont dit, n'importe qui peut venir ici. Et ces baptistes-là, ils avaient leurs églises baptistes dans la colonie, mais il y avait des gens qui n'allaient pas à l'église, il n'y avait pas de police pour venir les chercher, il n'y avait rien. C'était la liberté de conscience. Et donc, peu à peu, Roger Williams, bon, il n'était pas dans la politique, il s'est occupé plutôt des Indiens, et puis la colonie a bien grandi, et par la suite, les 13 colonies américaines ont décidé de faire leur propre pays. Vous le savez, ils ont dit non à Angleterre, on va faire notre propre pays. Mais ces 13 colonies devaient décider quelles seront les religions officielles de notre nouveau pays. Bonne question. En France, c'est le catholicisme. En Allemagne, c'est luthérianisme. Et puis, dans d'autres coins, le catholicisme. En Espagne, c'est le catholicisme. À Genève, c'est le protestantisme. Et nous, dans les colonies, qu'est-ce qu'on va être? Ils ont dit, bon, on a des puritains, on a d'autres gens, on a des baptistes, on a des quakers. Ils ont dit, ben, on peut faire 4 religions officielles. Qu'en pensez-vous? Et les baptistes ont dit non. Nous, on demande qu'il n'y ait aucune religion officielle, liberté de conscience. Et donc, le premier amendement de la Constitution américaine de ce jeune pays, c'était « L'État n'établira aucune religion. » Vous dites, mais ça c'est français. Ça c'est français depuis un peu plus de 100 ans. Parce qu'avant 1905, en France, il était légalement interdit d'avoir une église autre que catholique. Légalement. Bon, on faisait des compromis, mais normalement, c'était contre la loi. Mais là, ils ont déjà décidé de démarrer avec la liberté de conscience. Et ce qui fait que ces baptistes qui annonçaient l'évangile, comme les gens savaient qu'ils étaient derrière cette liberté, beaucoup de gens écoutaient leur message et beaucoup de gens se sont convertis. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens se sont convertis à cause un peu de ce bon témoignage de l'histoire. Alors, à mesure que ces baptistes se multiplient, beaucoup étaient quand même influencés par Jean Calvin. Et Jean Calvin avait l'habitude de faire comprendre que Dieu est souverain, il a décidé dans l'éternité qu'il allait sauver certains, qu'il n'allait pas sauver d'autres. Et de toute façon, les gens que Dieu va sauver, il va les sauver puisqu'il est souverain. Et donc, si vous êtes élu, vous serez sauvé. Et si vous n'êtes pas élu, vous ne serez pas sauvé. Puis vous n'avez rien à dire. Dieu vous fera la grâce, il ouvrira vos yeux, il vous sauvera. Mais il y avait un cordonnier qui, lui, ça ne le satisfaisait pas. Il avait un globe chez lui qu'il mettait dans son atelier et pendant qu'il réparait les chaussures, il regardait, tournait ce globe et regardait tous ces pays. Puis il a regardé l'Inde, c'est tellement loin l'Inde, inconnu, c'est un vaste pays. Et il se dit, est-ce que les gens de l'Inde, ils ont entendu l'évangile comme moi, que j'ai pu l'entendre en Angleterre? Je parie qu'ils ne connaissent pas l'évangile. Ils ont l'hindouisme, ils adorent les vaches et tout ça, mais c'est triste, mais ils devraient connaître l'évangile. Et Dieu a mis sur son cœur d'aller évangéliser en Inde. Il a regardé la Chine. Oh, mais ces gens-là ne connaissent sans doute pas l'évangile. Alors, il a réuni plusieurs pasteurs. Il a dit, écoutez, moi je suis un simple cordonnier, mais j'aimerais bien aller en Inde et apporter l'évangile. Qu'en pensez-vous? Puis il y avait un pasteur un peu ancien qui s'est levé et qui a dit, « Jeune homme, quand Dieu veut sauver les païens, il le fera sans ton aide. Tais-toi et assieds-toi. » Alors William Carey s'est assis, mais il n'allait pas rester là. Il a dit, « C'est pas normal. » Et avec d'autres amis, il a formé une petite société missionnaire. C'était la première société missionnaire des temps modernes. Et il est parti en Inde. Et il est resté là pendant 50 ans à peu près. il a appris plus de 60 langues indiennes et a traduit la Bible ou des portions de la Bible dans plusieurs dizaines de ces langues. Non seulement ça, mais il avait un tel contact avec le gouvernement de l'Inde qu'il a servi pendant un petit moment comme ambassadeur et facilitateur de communication entre l'Inde et l'Angleterre. À la fin de sa vie, tout le monde connaissait William Carré et des gens commençaient à partir dans ces grands pays lointains comme missionnaires. Il a envoyé beaucoup de gens comme missionnaires. Et puis, aux États-Unis, les baptistes ont dit, mais c'est vrai, il faudrait prêcher aux autres. Et puis, un jeune homme s'est levé, Johnson, c'est le premier missionnaire américain baptiste à partir en Birmanie pour évangéliser. Et une histoire invraisemblable, tellement, tellement de difficultés. Alors, pour revenir en France, donc ça, c'est des baptistes qui s'établissent, qui grandissent et qui commencent à penser au monde. Et ils ont commencé les premières missions, on va dire, modernes. Alors, en France, la première église baptiste des temps modernes était à Nomain, dans le nord, à côté de l'Allemagne. Au Luxembourg. C'est un fermier dans un village dans le nord. Il trouve une vieille Bible dans sa grange. Et il l'a lu en compagnie de sa famille. Et bientôt, toute la famille s'est convertie. Et donc, comme par hasard, un missionnaire anglais passait dans le coin. Il était en Allemagne. Et puis, il est passé en France pour aller vers l'Angleterre. Et il a rencontré ce fermier, et Monsieur Collier. Et il est resté pour quelques jours. Enfin, ça a duré quand même 2 ans. Il est resté avec la famille Collier. Et cet homme a enseigné la Bible à cette famille. Ils sont tombés sur le sujet du baptême. Et alors, M. Collier demande à M. Pitt, « Monsieur, est-ce que vous nous baptiseriez ?» Alors, M. Pitt a dit, « Écoutez, je voudrais bien, mais je travaille pour une mission interdénominationnelle. Ce n'est pas une mission baptiste, c'est un peu évangélique. » Et on nous a dit de ne pas parler de choses qui divisent les chrétiens. Et comme tous les chrétiens ne sont pas d'accord sur le baptême, j'ai promis que je ne baptiserai personne. Alors, M. Collier, sa famille, mais c'est bizarre. Est-ce que vous y croyez? Il dit, oui, j'y crois, mais ça, c'est personnel. Mais est-ce que vous-même, vous avez été baptisé par immersion? Oui. Mais alors? Et la famille Collier, M. Pitt n'a pas pu participer, mais M. Collier a été baptisé, je ne me souviens plus s'il s'est baptisé tout seul, et puis il a baptisé toute sa famille, et c'était les premiers baptistes des temps modernes dans le Nord. Et donc, il y a une chapelle en pierre dans ce village que vous pouvez visiter aujourd'hui. C'est la première chapelle baptiste construite sur le continent européen. Ça, c'était en 1820. Et donc, après, ils ont commencé le colportage. Ils ont dit, comment on peut atteindre les gens avec l'évangile? Alors, il y a eu des gens qui ont pris un sac à dos avec des Bibles, des traités, des Nouveaux Testaments, des livres bibliques, et partaient de village en village, sans argent, demandaient l'hospitalité. Quand quelqu'un achetait une Bible, vous avez mangé, non? Vous voulez manger avec nous? Ah, ben, ce serait gentil. Vous allez dormir où la nuit? Ben, je ne sais pas. Vous voulez dormir ici? On a un lit. Ah, ben, ce serait gentil. Et ils allaient comme ça, par la foi, distribuer l'évangile dans tous les villages dans le nord de la France. Et plusieurs assemblées se sont développées comme ça. Et donc, en Bretagne aussi, il y a des baptistes gallois, donc Pays de Galles. Parce qu'ils avaient un grand réveil là-bas, en 1904-1905. Et les Gallois, c'est des gens très grands, qui chantent très bien. Ils avaient des redingotes noires, ils avaient des hauts de forme, des chapeaux noirs. Ils étaient très austères. Et ils sont arrivés en Bretagne. Alors, le breton et le gallois, c'est pratiquement la même langue. Donc, ces gens pouvaient se faire comprendre des bretons. Et alors, les bretons, à l'époque, ne savaient pas ni lire ni écrire le breton. Et ne savait ni lire ni écrire le français. Et ne parlait pas le français. Et ces pasteurs gallois se sont mis à traduire la Bible en breton, puis à enseigner les villageois bretons à lire la Bible en breton. Donc, ils ont appris à lire et à écrire le breton. Après, ils leur ont appris à lire et à écrire le français. Et j'ai un ami qui est décédé maintenant, mais il y a 50 ans en arrière, il était pasteur baptiste dans un de ces petits villages en Bretagne. Et il m'a dit, beaucoup de ces petits villages, vous avez une église catholique à un bout du village, et puis une chapelle baptiste à l'autre bout, et construite en pierre. Et puis globalement, d'un côté de la rue, c'était plutôt des baptistes, et de l'autre côté de la rue, plutôt des catholiques. Et il a dit, pendant des dizaines d'années, les gens qui allaient à la petite chapelle baptiste, ils savaient lire et écrire et le breton et le français, et les pauvres catholiques ne savaient ni lire, ni écrire, ni l'un ni l'autre des langues. Et il a dit, c'est impressionnant, et ça montre encore une fois, quand on prend la Bible, la parole de Dieu, et quand on l'enseigne, ça donne une soif aux gens d'apprendre à lire. Donc tous les missionnaires bibliques ont toujours fondé des écoles pour enseigner à lire et à écrire. C'est fondamental. Et donc, les églises en Angleterre et aux États-Unis ont commencé à aider les églises, petites églises baptistes en France, parce qu'on était encore dans l'illégalité. Il n'y avait pas encore la loi de l'Église et de l'État en 1905. Et on arrive à 2000 baptistes en 1870. Et ensuite, après le Second Empire, donc Napoléon, on commence à avoir un peu plus de liberté. Et les baptistes sont structurés en réseau, ils ont fait une fédération, et puis par la suite, ils ont fait une association. Aujourd'hui, ces églises, la fédération compte environ 80 églises, et l'association 65 églises à peu près. Et ça date de 1870. Aujourd'hui, la fédération des églises évangéliques baptistes s'est beaucoup élargie. Dès 1920, c'était très large. Et donc, ils entretiennent un dialogue œcuménique avec l'Église de Rome depuis 30 ans. C'est un peu dommage parce qu'ils commencent à dire que les catholiques prêchent le même évangile que nous. C'est curieux quand même. Et l'association est en train de suivre le même mouvement avec le Conseil national des évangéliques de France. Eux aussi sont entrés dans le mouvement de dialogue œcuménique. Mais il y a des baptistes indépendants qui n'y sont pas. Et donc, il y a des baptistes qui sont allés à l'étranger. Il y a beaucoup de travail missionnaire qui a été fait au Congo. Les baptistes français qui sont allés au Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, beaucoup en Kabylie. Il y a un réveil en Kabylie aujourd'hui, mais c'est dû en grande partie à ces missionnaires évangéliques qui sont allés en Kabylie enseigner. Les Kabyles, quand même, ne sont pas des Arabes. Hein, c'est des descendants des soldats romains avec les gens du pays. Et donc, ils ne se reconnaissaient déjà pas dans l'islam comme certains autres et ils ont été beaucoup plus ouverts à l'évangile. Et beaucoup en Argentine aussi. En Argentine, le travail, les églises baptistes sont partout dans ce pays-là. Donc, en partie, les baptistes français sont allés évangéliser ces pays-là. Il faut que je vous parle de Rubens Saillant, on est vers la fin. Rubens Saillant, c'était un prédicateur qui est né à Nîmes. Et il est monté à Paris, il a travaillé avec un évangéliste anglais, McCall. Et McCall, il avait l'idée géniale à Paris d'ouvrir des salles. Dans tous les quartiers, il ouvrait des salles à côté des usines. Et quand les gens sortaient de l'usine, il passait devant cette salle, on donnait un prospectus, venez écouter l'évangile. Alors, c'est quoi? Et donc, on avait deux, trois cantiques bien entraînants, et puis on prêchait l'évangile et on demandait qui veut se convertir. Et des centaines de gens se sont convertis par ces salles d'évangélisation qui étaient ouvertes tous les soirs de la semaine quand les gens sortaient de leur usine. Et donc, il a prêché l'évangile tous les soirs pendant des années à Paris. Et peu à peu, c'était évangélique, mais sans dénomination. Il a dit quand même, je suis baptiste, je crois au baptême par immersion. Et donc, il a fondé une église à Paris qui s'appelle l'église du Tabernacle. C'était la première église baptiste à Paris. Et ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y a des GIs qui sont arrivés en Normandie pour aider la France à la fin de la guerre. Et ils sont arrivés, les Allemands sont partis. Et en marchant en France, en regardant la France, ils ont dit, mais Il n'y a pas d'église baptiste, il n'y a pas d'église évangélique en France. Dans chaque ville, on a une église catholique, bien entendu, mais où sont les autres églises? Où est-ce qu'on peut entendre l'évangile? Mais nulle part, personne n'a jamais entendu ça. Et beaucoup, en bon nombre, sont retournés et sont allés dans les écoles bibliques, et ils ont pris leur Bible et ils sont revenus en France pour apporter l'évangile à des pays, à Normandie et un peu partout. Et donc, depuis les années 50, j'étais formé par un homme qui est arrivé en France en 46. Il y avait un mouvement aux États-Unis d'aller en Russie. Juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Russes étaient les alliés des Américains et des Britanniques. Et ils ont pensé, mais la Russie va s'ouvrir, on va pouvoir prêcher l'évangile dans ce grand pays. Or, le temps d'arriver là, le rideau de fer est tombé. En 44, interdit de prêcher l'évangile en Russie. Donc, il y en a deux qui sont allés en Tchécoslovaquie, et deux ans plus tard, le rideau de fer est tombé en Tchécoslovaquie. Alors, ils sont revenus à Paris, et puis ils ont resté toutes ces années en France. Ils ont fondé plusieurs églises. Alors, aujourd'hui, on peut dire, le nombre de baptistes en France s'élève à environ 50 000, à peu près 50 000. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle est la spécificité? Et souvenez-vous de ceci, ils ont compris très tôt, les gens, il faut qu'ils soient libres. Dieu les laisse libres. Dieu donne l'évangile. Il appelle tous les hommes à se repentir. Et si quelqu'un refuse, c'est son droit. Il peut refuser. Mais Dieu le jugera. Mais Dieu a raison de le juger parce que Dieu lui a vraiment laissé le choix. Voilà, c'est important. Et que chaque assemblée doit gérer ses propres affaires. Donc, dès le début, on ne voit jamais d'évêque ou de pasteur qui dirige, voilà, je te place ici, je te place là, toi tu bouges de là, cette église, vous lui faites donner tant d'argent et cette autre, vous le faites donner. Il n'y a personne au-dessus, il n'y a pas de bureau central. Quelquefois, des gens disent, ah, vous êtes de l'église baptiste comme de l'église catholique. Il n'y a pas d'église baptiste mondiale. C'est chaque église est indépendante et autonome. Chaque église a son propre budget qui est alimenté par les membres. Chaque église décide où va l'argent. Chaque église fait face à ses propres dépenses. Chaque église choisit ses responsables et les membres décident de l'orientation de l'église sous la conduite des responsables qu'elle a choisis. Donc ça, c'est la pensée de Dieu pour l'église de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que c'était dans le Nouveau Testament. Alors, bien sûr, aujourd'hui, beaucoup d'églises évangéliques, la plupart des églises évangéliques, sont de type baptiste, c'est-à-dire, ils baptisent par immersion, ils ont des assemblées générales, c'est comme toujours. Mais ce sont ces gens qu'on appelle baptistes qui ont compris ces principes-là et les ont mis en pratique il y a 400 ans. Il y a une chose qui est très importante. Ce n'est pas le nom d'une église qui compte. C'est ce qu'elle croit. Oui, c'est ce qu'elle croit. Et quand on va dans une église, on peut regarder quelle est l'enseigne au-dessus de la porte, mais il faut écouter et puis examiner dans les Écritures. Écouter attentivement, le prédicateur dit, regardez tel passage. Oui, il parle de ce passage. Est-ce qu'il dit ce qu'il y a dans le passage ou est-ce qu'il a donné ses propres idées? Voyez? Et quand on voit que c'est conforme à ce que Dieu dit dans la parole et que c'est toujours conforme à la parole et il y a un vrai désir de plaire à Dieu, on peut dire, ça c'est une église bâtie selon le modèle du Nouveau Testament. Jésus-Christ pourrait venir et être heureux dans cette église. Malgré qu'on est des pécheurs. Mais il verrait, on veut vraiment respecter sa parole et son exemple. Les apôtres pourraient venir et on pourrait les écouter et ça ne serait pas différent de ce qu'on entend les dimanches parce que c'est la même parole. Et donc, c'est la vérité qui compte, ce n'est pas le nom. Nous ne devons pas, nous on a tendance, nous les êtres humains, à chercher quelque chose qui nous distingue pour montrer que nous sommes meilleurs que les autres, voyez. Et c'est un danger pour tout le monde. Les premiers chrétiens, on ne les appelait pas baptistes, parce que même les juifs faisaient des baptêmes. Donc, mais on les appelait des chrétiens. Et le mot, c'était un terme de moquerie. Vous êtes des petits Christ, vous êtes des imitateurs du Christ. C'est le plus beau nom, être un imitateur du Christ. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus? Mais imiter Christ, c'est vivre selon son enseignement tel qu'il a donné dans sa parole. Et ça, c'est le lutte de toute église de rester fidèle.
Juste, je voulais te demander quelque chose. Tu disais que les gens se convertissent. Ce soit peut-être clair, on ne se convertit pas à une église. Convertir veut dire se convertir à Jésus.
Oui, après, oui. Dans une église. Voilà, c'est ça. La conversion est un changement de direction. Alors, pour être très clair, la repentance est un changement de mentalité. Imaginez que je veux aller à ce piano et je suis en train de marcher comme ça. Et je me dis, je vais dans la mauvaise direction. Je m'éloigne du piano alors que je veux aller vers le piano. Dans ma tête, je dis, non, je ne veux pas aller vers là, je veux aller vers là. Je me suis trompé, je change de point de vue. C'est la repentance, puis ça se passe ici. Mais je continue à aller par là-bas. Mais je sais que j'ai une mauvaise direction. Quand je me convertis, je fais ça. Et je vais par ici. Donc, la repentance, clairement compris, c'est, dans l'exemple du salut, mais je crois que je suis assez bon pour aller au ciel, je n'ai pas fait de mal à personne, donc c'est bon. Mais je suis sur une fausse idée. La repentance, c'est attendez, non, je ne suis pas assez bon pour aller au ciel. Je suis un pécheur. Je mérite le jugement de Dieu. Dieu est saint. Il ne peut pas m'accepter comme je suis. J'ai besoin d'un sauveur. Ça se passe dans ma tête. Je le comprends. Mais si je ne me convertis pas, si je ne viens pas au sauveur, si je dis aux gens qui m'évangélisent, mais vous avez raison, c'est vrai. Je suis un pécheur, c'est vrai, je viens de le comprendre. J'ai changé de point de vue. Mais si je dis non, Jésus, je ne sais pas, peut-être plus tard, je ne suis pas converti. Je ne suis pas venu à Jésus. Et Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous également. Donc, Dieu comprend qu'on a une fausse idée. Il le comprend bien, c'est pour ça qu'il annonce l'évangile. Il dit, vous êtes dans le faux, vous allez sur une fausse piste. Vous allez vers le chemin de la perdition. Alors, rendez-vous compte que vous êtes sur un mauvais chemin, que vous allez en enfer. Ah oui, je me rends compte. Alors, tournez-vous et venez vers moi. Et quand on se tourne et on va vers lui, c'est la conversion. On va vers lui et on le reçoit comme sauveur et on est sauvé. Et une fois qu'on est sauvé, qu'il est notre Seigneur et notre Sauveur, mais il devrait être notre Seigneur. Voilà. Il devrait régner dans notre vie. Il est possible d'être sauvé et qu'on ne lui permette pas de régner sur notre vie, mais ce n'est pas en état normal. Et puis, on dit, mais je veux plaire à Dieu. Et comment je peux plaire à Dieu? Et là, on découvre dans le Nouveau Testament, le Seigneur a décidé de grouper les croyants dans des communautés où ils pourront prier ensemble, se soutenir, se souvenir de son sacrifice par le repas du Seigneur, prendre position pour lui officiellement, visiblement par le baptême, par immersion, étudier sa parole, témoigner de lui aux autres et voir d'autres gens se convertir et se faire baptiser, se joindre et continuer à soutenir les gens qui vont dans d'autres pays et faire connaître l'évangile dans le quartier et dans le monde entier jusqu'au retour de Jésus-Christ. Ça, c'est le plan de Dieu pour toute église. Amen. Et quand on fait ça, l'église est bénie par le Seigneur. Et quand on ne le fait pas, on stagne. Quand on ne le fait pas, après on a des problèmes entre nous, on se tire dans les pieds les uns des autres, on se critique, et c'est parce qu'on ne fait pas ce que Dieu veut que nous fassions. Et on fait du surplace. Voilà, donc oui, c'est une question très importante, c'est se tourner vers Jésus et dire, je suis un pécheur. Jamais tu ne pourrais m'accepter comme je suis. Je sais que Je ne peux pas enlever mes péchés. Je ne peux pas les payer. Je suis condamné. Mais puisque tu m'aimes et tu as payé pour moi, j'accepte ton sacrifice et je te reçois dans mon cœur. Et là, on va vers Jésus. On change de direction et on est sauvé. Ouais. Alors, que le Seigneur vous bénisse et j'espère le mois prochain.
Merci, Tim.